adore jaser de marketing et de publicité. Et souvent, c'est très lié à l'économie. On le voit, les chiffres parlent. Et la meilleure personne pour en parler, le professeur en marketing de l'Université d'Ottawa, Luc Dupont. Luc, comment ça va?
Ça va très bien, toi. Comment ça va, Pierre?
Ça va très bien, ça va vite. Dans un monde ma foi, donne toujours le vertige avec les chiffres. Et là, on a quand même une idée là, de comment ça va vite dans la Ligue nationale de hockey. On regarde les chiffres aller. Là, les Prédateurs de Nashville qui seraient sur le point d'être vendus là, pour quasiment 900 millions de dollars US, à peu près 5 fois les revenus. Et ça rejoint un peu ce que le marché de la Ligue nationale est en croissance. Là, on pouvait avoir une équipe à l'époque pour 200 millions. Maintenant, on avoisine le milliard de dollars. Est-ce que tu es surpris de ces chiffres-là?
Ben, les chiffres sont évidemment renversants. Remarque, à Ottawa, depuis maintenant 2 à 3 semaines, on parle d'une équipe qui pourrait potentiellement être vendue pour autour de 900 millions de dollars. Et je rappelle toujours que dans le cas d'Ottawa, ça n'inclut pas la construction de l'amphithéâtre. Et que techniquement, ce qu'on sait maintenant, c'est que ce ne sont pas les héritières, donc les deux jeunes filles qui gèrent tout ça, ni un groupe qu'elles auraient ou qu'elles ont engagé, mais c'est la Ligue nationale, carrément, qui est en train de négocier avec les différents acheteurs. Et moi, ce qui me renverse, je vais être bien franc avec toi, parce que le marché d'Ottawa étant ce qu'il est, là, on parle de l'un des plus petits marchés de la Ligue nationale de hockey, c'est qu'il y aurait, aux dernières nouvelles, une dizaine de groupes intéressés à hauteur de 900 millions. Et je rappelle qu'il faut par-dessus tout ça construire l'amphithéâtre, qu'on a tendu la main au provincial et au fédéral également pour voir ce qui pourrait être fait. Mais ce qu'on sait au moment où on se parle, c'est que les gens qui vont acheter cette équipe-là doivent, à certains égards, promettre, entre guillemets, de construire un nouvel amphithéâtre. Donc, c'est pas vrai qu'on va continuer à se rendre à Canada pour aller voir les matchs des sénateurs. Et je rappelle toujours que dans cette histoire-là, il y a quelque chose d'assez fascinant. Lorsque les sénateurs ont obtenu l'équipe, c'est une année où on avait décidé d'octroyer deux nouvelles équipes de la Ligue nationale de hockey. On a fait défiler toute une série de millionnaires et de milliardaires. Parmi ceux-ci, les moins riches, c'était les gens des sénateurs d'Ottawa, mais qui possédaient un terrain en banlieue de la ville. Alors, c'est le fameux terrain sur lequel on a construit l'amphithéâtre. Et l'idée à l'époque, c'était de dire, ben, comme on vient d'obtenir l'équipe, comme on a besoin de sous, ce serait important de dézoner le terrain pour nous permettre d'une part de construire l'amphithéâtre, donc de conserver l'équipe, et d'autre part de vendre des lopins de terrain pour par la suite faire des sous. Alors, tu vois un petit peu comment ça s'est passé. Et à l'époque, tous les milliardaires qui avaient défilé avaient dit, est-ce qu'on peut négocier le paiement sur plusieurs années de l'équipe de hockey? Et il y a deux groupes qui n'ont pas posé cette question-là. Et je le précise encore une fois, c'était les deux groupes les moins nantis. C'est les sénateurs d'Ottawa et c'est l'équipe de Tampa Bay, de Lightning, ce qui va s'appeler donc éventuellement le Lightning de Tampa Bay. Mais on avait à l'époque Tim Hortons, qui n'a pas besoin de présentation. On avait à l'époque les gens de Seattle, qui pourtant depuis sont dans la Ligue, comme quoi on peut leur dire non une fois, deux fois et trois fois et éventuellement changer d'idée. Mais dans le cas et de Seattle et de Hamilton, on avait posé toute une série de questions. Et dans le cas des sénateurs, on n'avait pas posé de questions. Alors, à cet égard-là, 900 millions plus l'amphithéâtre. Alors, on est rendu pas très loin d'1,5 milliard.
Et là, on regarde, parce que là, il faut amener ça dans l'enjeu québécois. Les Nordiques, éventuellement, c'est un peu ça. Là. On comprend qu'il y aurait... S'il y a de l'intérêt éventuellement pour une franchise, ben ça serait une franchise autour de 900. Parce que là, si la Ligue négocie directement avec les acheteurs potentiels, c'est qu'elle ne veut pas qu'on vende en bas d'un prix qui amènerait les autres propriétaires à perdre la valeur sur leur franchise. Donc, on comprend que la Ligue contrôle très bien la valeur des équipes. Là.
Oui, et dans le cas de la Ligue, ben, ce qui est assez remarquable, c'est que officiellement, on ne s'intéresse pas à la construction éventuelle d'un amphithéâtre, mais dans les faits, si tu arrives avec un projet sans amphithéâtre, on va prendre ton dossier et puis on va le mettre sur la pile, mettons, à droite, là, très, très loin, pour pas que je m'enfarge dedans à nouveau. Et le chiffre à battre, et tu en parlais en début d'entretien, c'est 900 millions pour les Penguins de Pittsburgh, il y a quelques années déjà. Et ça veut dire que dans le cas d'Ottawa, comme dans le cas des Prédateurs de Nashville, une équipe de sport professionnel, à tout le moins une équipe de la Ligue nationale de hockey, ça vaut à peu près 5 fois les revenus. Et là, je précise, c'est pas les profits, à ne pas confondre ici,
Ouais.
c'est les revenus. Et on est passé au fond d'équipes qui généraient essentiellement des revenus avec les ventes de droits de télévision, les ventes également de publicité sur les bandes de patinoires, à publicité sur la glace, à publicité sur les chandails, à publicité sur les casques, à publicité numérique. Et là, ben, on est rendu à ce. Moi, je trouve que sur le plan psychologique, évidemment, on dira c'est juste un chiffre, mais franchir le cap du milliard. Et là, malheureusement, je refais la parenthèse Québec parce que tu l'as trouvé, tu l'as trouvé il y a 2 instants. Je pense qu'on a compris que c'est terminé. On a compris que c'est terminé. Malheureusement, remarque qu'il y a des gens qui diront c'était terminé depuis longtemps, mais je crois qu'il y a eu une fenêtre quelque part au moment où ça coûtait à peu près 300 millions. Et là, on aurait pu imaginer 3 ou 4 ou 5 personnes qui auraient travaillé ensemble parce que, je le précise,
Oui.
à Seattle, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, les gens qui sont là et qui possèdent l'équipe sont extrêmement riches, mais ils sont plusieurs et ils ont travaillé ensemble. Et le défi, ben, c'est de trouver des gens qui veulent travailler ensemble. Ça, c'est pas évident.
Non, c'est ça. Et dans le contexte canadien où ton dollar vaut 74 cents US, il y a ça aussi là qu'il faut prendre en compte. Oui, l'engagement du partisan est supérieur peut-être au marché américain dans certains marchés. Par contre, oui, il y a plus de revenus au niveau des produits dérivés, mais il faut quand même jouer dans une table de logique là. Donc, ça va être ça. Non, ben écoute, clairement, Québec est en train de se faire exclure du cercle. Comment on dit ça, le cercle intime. C'est un club
Oui.
sélect, là. C'est un club sélect. Les prochains marchés, on nous parle peut-être d'expansion. On évoque quoi? Houston, on évoque Kansas City, et Québec ne semble pas être dans le portrait, là, encore une fois.
Oui. Et rendu là, ben oui, ça nous rappelle que quand on fait partie du club sélect, il faut tout faire pour ne pas sortir du club sélect. Et soudainement, ben les quoi, 60, 70, 75 millions de dollars que ces ex-propriétaires-là ont obtenus pour la vente des Nordiques, ben tu te
Incroyable.
dis que ils sont peut-être passés à côté d'un. En fait, ils sont assurément pour passer à côté d'un montant colossal. Remarque qu'à l'époque, je le précise, parce qu'on a traversé une séquence au Québec excessivement difficile à la fin des années 90. Coup sur coup, c'est les Nordiques et les Expos. Et j'ai souvenir du Canadien de Montréal qui momentanément donc a été mis en vente. Et c'était George Gillett qui a acheté ça pour une bouchée de pain.
Ouais.
On lui a donné à l'époque l'amphithéâtre, le Centre Bell, pour 1 $, je le précise. Et il n'y avait personne, même pour le Canadien, qui voulait acheter l'équipe. Donc, toujours se remettre dans un contexte où, à un moment donné, sur le plan psychologique, tout le monde avait décidé de lancer la serviette. Et ça a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Arthur avait perdu son équipe. Winnipeg avait perdu son équipe également. Alors, j'ai rien. Quand tu fais partie du club célèbre, tu fais tout en ton possible, hein, tout ce qui est possible pour ne pas quitter ce club sélect-là. Et je suis obligé de te dire, Pierre, parce que là, la beauté, c'est que je le regarde à travers les yeux de la ville d'Ottawa. Il y a une classe ici qu'on n'a pas eue à Québec. Et là, je pourrais être excessivement méchant, je ne le serai pas, mais il se passe des choses à Ottawa qui ne se sont jamais passées à Québec. Il y a des leçons à tirer et on ne s'est peut-être pas très bien comporté collectivement. Autant les médias que les gens qui possédaient l'équipe, que les fans aussi.
Ben voilà.
Et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y a une classe à Ottawa. Ben, on est obligé de regarder ça puis dire, ils ont des leçons à nous enseigner, assurément.
Ben, moi, c'est ce que je dénote. Je dénote je veux dire, un manque flagrant du sens des affaires des Québécois. Là, je veux dire, une franchise qui se vendait 75 millions en quoi 94, les prix que les propriétaires des Nordiques ont vendus là, à des Américains. Écoute, aujourd'hui, la même franchise vaut 900 millions, 1 milliard US. Je veux dire, là, y a-tu quelqu'un qui s'est compté dans la boîte, là? Même la caisse de dépôt qui aurait voulu faire le placement n'aurait jamais pu espérer un rendement incroyable là-dessus. Je veux dire, il y a des gens qui ont manqué le bateau. Il y a un manque de vision. Un manque de flair des gens d'affaires du Québec, clairement, là-dedans, là.
Ah, il y a beaucoup, beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup, beaucoup de leçons à tirer. Et la plupart de ces leçons-là ne sont pas à notre avantage.
Non, exactement. Puis je comprends pas qu'on ne comprenne pas la business du sport nord-américaine. On le voit partout. Il y a des investissements, c'est colossal. Et les milliardaires sont là, oui, mais ils savent compter, eux autres aussi. Là, c'est M. Hacham qui veut acheter une franchise de Tennessee. Il est avec les Steelers de Pittsburgh. Il doit bien voir qu'il y a de l'argent à faire avec ça puis de la progression. Cette franchise-là qui va payer 900 millions va se vendre peut-être 1,5, 2 milliards dans quelques années. Et ça, c'est un manque incroyable de flair économique, politique et etc. de la part des Québécois qui ont manqué le bateau carrément. Là, quand on voit la progression de ce ligue-là. Là.
Et dans le cas, je le rappelle, non seulement dans le cas des Nordiques, mais dans le cas des Expos, parce que dans le cas des Expos, on va aussi le dire gentiment, il y a une expression en français, en québécois qui existe, c'est « on s'est fait passer dans le mythe », et là, c'est pas un mauvais jeu de mots ici. Et dans le cas du Canadien, mais je rappelle que je dis pas que ça a passé proche de partir. Je dis que quand on a dit que l'équipe était en vente, j'ai souvenir d'un journaliste à Montréal qui, durant la conférence de presse, pose la question « Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'investisseurs québécois? » Alors, je parle de la séquence George Gillette. Et la réponse des gens qui étaient à la recherche d'un acheteur potentiel, ça a été très facile. C'est parce qu'il n'y en a pas qui ont levé la main. Il y a toute une série de leçons là-dessus à tirer. Puis malheureusement, ben, je reviens sur le prix. À 900 millions US pour l'équipe de la Ligue nationale ici à Ottawa, ou à Québec, dans l'éventualité où on serait intéressé à tout ça. Dans l'éventualité à Montréal, à Ottawa, où il faut ajouter l'amphithéâtre également. Et on met ça en Canadien, on est rendu presque qu'à 2 milliards.
Oh oui, c'est ça. On comprend tout ça, mais... Moi, le flair, je ne sais pas, là, à un moment donné, tu achètes une action à 10$ et elle est rendue à 200$. C'est à peu près ça. Tu achètes une équipe de hockey à 75 millions et elle est rendue à 1 milliard 25 ans, 30 ans plus tard. Je veux dire, il y a quelque part, il y a des gens qui savent compter plus que certains. Et ces certains-là ont manqué le bateau, clairement. Ça sera suivi.
Oui. Oui, absolument. C'est toi, j'aurais tellement de choses à dire. Mais effectivement, c'est n'ayons pas peur des mots. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est abominable. On le réalise aujourd'hui, mais bon. D'ailleurs, je prétendrais que Québec ne s'est jamais tout à fait remis de ça. En même temps, il fait bon vivre.
L'économie va bien. Je veux dire, l'économie de Québec, il y a un taux de chômage très bas, ça roule. Toujours des croissances. Quand on regarde l'économie de Québec dans le Canada, dans la RMR, région métropolitaine de recensement, bien, l'économie va très bien. Mais... je ne comprends pas les gens d'affaires d'avoir manqué un bateau comme ça. Là. Regarde le rendement sur ces franchises-là. On les voit, ils se les passent. Là. C'est après 4, 5 ans, 6 ans, ils font rouler l'économie, ces milliardaires-là aussi, dans leurs franchises. Mais ça prend de la valeur d'année après année. Là.
Oui, et toujours de nouvelles sources de financement également. De nouvelles sources de visibilité. De nouvelles sources aussi sur le plan publicitaire de revenus potentiels. Et à quoi ressemblera le sport dans 5 ans ou dans 10 ans lorsque tantôt Amazon, tantôt Apple, tantôt d'autres également auront mis la main sur les droits de ces équipes-là? On peut imaginer là, comment ça pourra valoir. Puis ajoute à ça l'étage des paris sportifs. J'ai souvenir de Mark Cuban qui disait dans une entrevue il y a quelques années, dans la nuit, alors qu'il possède le Maverick de Dallas l'année, il disait « dans la nuit où on a autorisé les paris sportifs individuel sur les équipes de sport, parce que dans certains États, c'était déjà le cas, je pense évidemment à Vegas, mais dans d'autres États, c'était plus difficile. Remarque qu'on l'a fait aussi récemment au Canada pour ceux qui auraient manqué l'actualité de ce côté-là, mais il avait dit « dans la nuit, je me suis couché, mon équipe valait X, et je me suis réveillé le lendemain et mon équipe valait X multiplié par 2. » Et c'est la même équipe.
Ah oui, absolument. Donc, des leçons à tirer de tout ça. C'est fascinant, ça s'écrit sous nos yeux là actuellement. Puis le cas d'Ottawa est patent aussi. Donc, ça sera à suivre. Écoute, autre sujet qui fait beaucoup jaser, le film Air au cinéma qui raconte toute la saga de Nike pour mettre sous contrat Michael Jordan. À l'époque, que la division des souliers ou la division basketball chez Nike... battait de l'aile et on avait pris un pari fou et risqué avec Michael Jordan et ça a été très, 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 très payant.
Oui, et moi, c'est le genre de film, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir ça. Il est excellent. Évidemment, on a pris certains raccourcis. Il y a des gens qu'on voit un petit peu plus. Par exemple, on sait que Ben Affleck est très ami avec Matt Damon. C'est ça, hein? C'est son buddy, finalement, son grand chum. Alors, Matt occupe beaucoup d'espace dans le film. Il ne faut pas oublier l'agent de Michael Jordan, je le précise, parce que lui était agent depuis plusieurs années. Il avait déjà signé d'autres ententes que je qualifierais de similaires avec d'autres de ses clients. Mais évidemment, l'incontournable quand on pense à chaussures sportives, c'est évidemment Michael Jordan, qui, je le précise pour la petite histoire, ne voulait absolument pas signer avec Nike, avait joué avec des Converse durant ces années dans la NCAA. Converse, qui était le commanditaire d'une équipe de North Carolina. D'ailleurs, pour cette commandite-là, il payait à l'époque une somme qui pourrait aujourd'hui apparaître ridicule, 10 000 $ par année. Et c'est un 10 000 $ qu'on donnait au coach. Et en échange, le coach encourageait les joueurs à mettre plutôt des Converse que des Adidas ou des Nike, quand on y
Ça,
pense aujourd'hui, évidemment.
ouais, ben ça, c'est un influenceur, là.
Oui, aujourd'hui, ce serait impensable. Mais jusqu'à la dernière minute, Michael Jordan a voulu signer avec Adidas. Même au moment de signer finalement avec Nike, il va demander à son agent d'appeler une dernière fois Adidas en vérifiant s'il n'aurait pas changé d'idée. Et à l'époque, ben, l'entente est assez particulière. Des revenus sur les ventes de souliers, des actions de Nike et évidemment un montant forfaitaire, 500 000 $ par année pendant 5 ans. Aujourd'hui, encore une fois, des sommes qui apparaîtraient plutôt ridicules, mais on est dans quelque chose, on initie un mouvement à cette époque-là. Et le plus près de ça, c'était et Magic Johnson, et Larry Bird, et Julius Erving, et Kevin McHale, qui, eux, avaient signé pour à peu près 100 000 $ avec Converse. Alors ça, c'était le plus près. Et à l'origine, ben, lorsqu'on rencontre les gens de Converse, c'est le montant qu'on va offrir à Michael Jordan. Et surtout, ce qui va se passer, et c'est là le deal breaker, c'est que Michael Jordan, l'agent, va demander à Converse, qu'est-ce que vous nous offrez de particulier dans cette entente-là que vous n'offrez pas aux autres? Et la réponse, candidement, ça a été, écoutez, on ne vous offre rien de plus. Il n'a pas encore fait ses preuves. Et puisque je précise qu'il n'a pas encore fait ses preuves, à ce moment-là, remarque il était déjà extraordinairement prometteur, mais on avait dans le contrat de Nike des clauses assez particulières. S'il ne gagne pas le trophée de la recrue de l'année, s'il ne fait pas au moins 20 points par match, et s'il n'est pas sur l'équipe d'étoiles, on a la possibilité de se retirer de l'entente. Comme quoi, il y avait des craintes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont me dire, ben, on se protégeait, ni plus ni moins, mais c'était plus que ça, parce que dans le cas de nos amis de Nike, on avait eu des petits problèmes précédemment, parce que si je te nommais les gens qu'on avait signés au préalable, Moses Malone, Bobby Jones, je peux pas dire que c'était des grandes stars. Évidemment, on avait John McEnroe. Tu te souviendras peut-être, je me souviens vaguement de John McEnroe qui engueule l'arbitre.
Oui.
Et il a effectivement des Nike. Et l'autre truc dont je me souviens, parce que je précise ici que Jordan n'a pas inventé ce type d'entente-là, mais c'est lui qui le premier a rentabilisé ce type d'entente-là. Tu te souviendras peut-être des Stan Smith avec Adidas,
Oui.
qui était un vrai joueur de tennis qui existait. Alors, il y avait des précédents, mais c'est la première fois qu'on le faisait du côté du basket. Et ça coïncide, remarque, ça nous ramène un petit peu à notre sujet précédent. Ça coïncide avec le début de la folie de la NBA. Parce que pour ceux qui seraient un petit peu plus jeunes, la NBA, pendant très longtemps, c'était le quatrième sport. C'était pas le hockey qui était le quatrième sport. Remarque que bientôt, le hockey sera probablement le cinquième sport. Et c'est la MLS qui va passer devant. Je crois qu'on va voir ça de notre vivant, Pierre. Mais de ce côté-là, c'était le début de quelque chose. Et lorsqu'on disait Nike dans le temps, c'était la chaussure de jogging. Et pourquoi c'était ça? C'est que l'un des cofondateurs a écrit le premier livre sur le jogging. En fait, l'inventeur du jogging, c'est le cofondateur de Nike.
Oui, puis à l'époque, Nike misait beaucoup sur le basketball. En fait, on n'avait pas marié la mode et les chaussures. Et c'est là qu'on a commencé à amener ça dans la culture populaire américaine. Michael Jordan, Jordan et les Air Jordan. Mais c'est devenu une icône de la culture pop, mais également, on s'habillait avec les Nike étaient devenus comme un accessoire de mode, à même titre qu'un sac ou autre, là. Donc, on a amené ça à un autre niveau. Les prix ont explosé aussi parce qu'on regarde la marque Air Jordan, elle rapporte encore beaucoup là, à Nike, là. Donc, c'est fascinant comment on a décliné la marque avec Michael Jordan. On l'a amené à plein de produits à l'intérieur de Nike?
Oui, on parle à peu près de 120 millions de dollars par année encore aujourd'hui. On parle d'une marque qui existe depuis le milieu des années 80, ce qui est quand même remarquable, qui a été lancée aussi avec un accident de parcours, c'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, il y avait un règlement dans la NBA qui interdisait aux joueurs de mettre des souliers de couleur mûre. Alors évidemment, quand tu parles de Air Jordan, la première caractéristique de ces souliers-là, c'est qu'ils étaient en couleur. S'il y a aussi qu'éventuellement, ben, face à ça et face à la popularité des chouclaques de couleurs, la NBA avait même introduit une loi qui s'appelait la loi du 51. Alors, la loi du 51, c'est que au moins 51% de l'espace de la chouclaque devait être blanc. Parce que jusqu'à ce moment-là, tous les souliers de toutes les équipes étaient blancs. Et comme on avait interdit momentanément à Michael Jordan de porter des souliers, des chaussures sportives de couleur, Nike avait accepté de payer l'amende d'une part. Et d'autre part, avait lancé une campagne en disant, la NBA veut pas que vous mettiez des souliers de couleur, mais la NBA peut pas décider ce que vous allez mettre dans vos pieds ce soir. Et évidemment, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, quand on nous dit qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va faire ce quelque chose-là. C'est comme ça qu'on a lancé aussi le Red Bull en Europe. C'est et la France et l'Allemagne qui ont momentanément interdit le produit. Et on s'est servi de ça pour asseoir une campagne de marketing qui a très bien fonctionné par la suite.
Et fascinant ce parcours et ces décisions de mettre sous contrat Michael Jordan avec Nike. Autre chose qui a fait parler beaucoup, on va terminer avec ça, Luc, UFC, WWE. En fait, c'est la UFC qui avale la WWE, là. On comprend ça. Mais il y a un mariage là très fort et au cours des prochaines années, on va avoir des mix.
Oui, et soudainement, ben, tu as une organisation Endeavor qui possède deux des trois sports de matelas. Et c'est comme ça qu'on l'appelle en marketing. Hein? Alors, il y a la lutte, évidemment. Il y a les sports extrêmes, la UFC et d'autres ligues aussi, mais la UFC est certainement la plus connue. Et la boxe. La boxe qui a connu ses heures de gloire dans les années 50, dans les années 60 avec Mohamed Ali. Par la suite, on a eu dans les années 80 la lutte, qui a connu ses heures de gloire également. Remarque que les fans de lutte te diraient qu'il y a toujours des années de gloire, mais la réalité, là, c'est que si on cherche à identifier le moment clé, là, le point de. Et éventuellement, le point de bascule aussi, parce que s'il y a des moments qui vont bien, il y a tôt ou tard des moments qui vont un petit peu moins bien. Mais là, on est dans quelque chose qui ressemblerait à la UFC, qui est donc aux mains de Endeavor, qui est évalué à peu près quoi, autour de 11 à 12 milliards de dollars, qui fait l'acquisition de la lutte, donc l'autre sport de matelas, qui est évalué à peu près à 9,3 milliards de dollars. Donc, on parle d'une organisation qui, grosso modo, vaut à peu près 20 milliards de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ce serait l'équivalent de 20 équipes de la Ligue nationale d'hockey, si on veut faire une histoire assez simple, 20 à 25 équipes. Donc, ça nous donne une idée de la puissance de la Ligue, chacune avec ses forces. Alors, la WWE qui est très forte du côté des plus jeunes, la UFC qui est très forte du côté du pay-per-view. Alors, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser, c'est qu'on va utiliser les trucs des uns pour vendre la Ligue des autres.
Voilà, voilà.
Et l'image, moi, j'aime bien utiliser dans ce cas-ci, et je pense que c'est exactement ce qu'ils cherchent à faire, c'est que soudainement, ben, tu vas prendre les gens très jeunes avec la lutte, plutôt que la UFC. Ils vont grandir, puis éventuellement, tu vas les faire passer à la UFC. Alors, c'est une stratégie à la Disney. Alors, Disney qui a les souris, Mickey et toutes les autres, Minnie Mouse, qui éventuellement dit, on va vous faire passer à Star Wars et à Marvel. C'est, pour moi, c'est exactement la même stratégie. Alors, prédiction que je te ferai, je vais t'en faire une parmi tant d'autres, mais vu ce qu'on s'était amusé d'ailleurs à la fin de l'année et au début de l'année, en faire deux ou trois. D'ailleurs, dont plusieurs se sont réalisés, soit dit en passant. Je pense à TikTok, les problèmes légaux de TikTok. Mais je ne serais pas surpris. Donne-moi à peu près 6 mois, Pierre. Tu vas voir de la publicité sur le matelas de la lutte. Parce que tu vois de la publicité sur l'hexagone, en fait, le matelas de la UFC.
Oui, alors, on va y aller croiser, là. On va chasser croiser, là.
Oui, alors soudainement, ben, tu peux imaginer, moi je suis toutes sortes d'annonceurs potentiels, mais je crois qu'on va s'inspirer beaucoup des trucs des autres. Et pourquoi je pense que soudainement, parce que là j'entends des fans de lutte dire « c'est impossible, on peut pas mettre de la lutte, de la pub sur le matelas de la lutte, on le fait avec la USC, mais on peut pas le faire avec la lutte ». Alors ça à quoi je répondrais, ah, qui a décidé ça, dans quel livre, c'est le livre de qui? On va me dire, ben, c'est le monsieur McMahon. Le monsieur McMahon, il a toujours dit qu'on peut pas faire ça. Mais là, je vous précise que monsieur McMahon,
il est plus là.
Il va être moins là.
Oui, c'est ça, exact. Il a perdu le contrôle. Mais ça va être intéressant de voir comment on va travailler les synergies, justement, oui, amener le kids Puis là, ben là, tu tombes aussi dans un univers où c'est scripté, hein? La lutte, c'est ça, c'est du script. Et c'est beaucoup de la comédie. Là, tu tombes dans la UFC où là, c'est réel. Le coup de poing arrive vite, puis quand le gars tombe, il tombe, là. Et la
Oui.
boxe, même chose. Donc là, tu vas voir. Et je pense qu'on va travailler, on va essayer de travailler dans ces univers-là, là.
Oui, et c'est sûr que le livre qui existe, la lutte, tu me diras, je ne l'ai jamais lu, il est où le livre des règlements? Je ne sais pas, il est où, mais je suis convaincu qu'on va revoir tout ça dans la manière de faire les choses. Et je pense que ça risque d'être étonnant. Dans les premiers instants, évidemment, on va nous dire qu'il n'y a rien qui va changer parce que le monde de la lutte est un monde en réalité extrêmement traditionnel dans le domaine du sport, là. Avec le baseball, là, le coach qui est encore habillé en joueur de baseball,
Bon,
même si visiblement, il a pas fait le tour du dugout, là, depuis plusieurs années. En tout cas, s'il fait le tour, il mange trop de chips. Mais dans le cas de la WWE, je suis convaincu que, bon, initialement, on ne voudra pas froisser les susceptibilités des grands fans de lutte, mais qu'éventuellement, on va poser comme ça toute une série de gestes. Et les forces de l'un sont à certains égards les faiblesses de l'autre. Alors, dans le cas de la UFC, il y a peu de promotion par l'objet. Alors, il y a certainement beaucoup de choses qu'on pourrait faire de ce côté-là, qu'on fait déjà du côté de la WWE. Alors, tu vois un petit peu, il y a une espèce d'échange, une synergie, comme tu le disais un peu plus tôt. Il y a des choses qu'on fait très bien, que vous faites peut-être moins bien ou que vous ne faites pas carrément. Et puis là, on va regarder tout ça. Et dans le cas d'Endeavor, ben, c'est une entreprise qui, en l'espace de quoi, 7 à 8 ans, depuis qu'ils ont fait l'acquisition de la UFC, ils ont doublé les revenus de cette ligue-là. Qui, à ce moment-là, au moment où les fameux frères qui étaient dans le domaine du casino ont vendu pour à peu près quoi, 4 milliards de dollars, ce qui est une somme. Alors, tu vois, on est rendu à 11 ou 12, là.
Oui,
Donc, on a.
non, non, effectivement, il y a vraiment des gens d'affaires qui sont à leurs affaires à la UFC et dans la WWE. Ça sera à suivre. Luc, merci beaucoup. On aurait eu encore pour une demi-heure de une heure, 2 heures de discussion. Mais là, ça va être à suivre. On va falloir s'en reparler plus souvent. Merci beaucoup.
Absolument, absolument.
Salut.
Bye bye.
Vous avez aimé ce segment gratuit du podcast Cachemire? Devenez contributeur exclusif Cachemire pour aussi peu que 1,53 $ par semaine. Participez à créer un modèle médiatique du futur, un média libre et indépendant financé par ses auditeurs. Avec cette contribution, recevez également du contenu exclusif chaque semaine par le biais de notre infolettre financière. Rendez-vous sur le site web cachemireplus.com. Cliquez sur l'onglet infolettre financière.